traverser l'épreuve, voici une conférence du Père Jacques Philippe de la communauté des Béatitudes, conférence enregistrée à Lourdes lors du pèlerinage des Béatitudes le 30 juillet 2022. Le Père Jacques Philippe.
Voilà donc, bonjour à tous. Le thème sur lequel on va partager cet après-midi, le titre qui a été donné au carrefour, c'est « Traverser l'épreuve ». Donc je vais faire quelques réflexions sur cette question, les épreuves qu'on peut rencontrer dans notre vie, essayer de comprendre un peu comment les vivre, les affronter, qu'elles puissent devenir aussi, je crois que c'est possible, pour nous des chemins de croissance et de rencontres plus profondes avec le Seigneur. Alors, cette question donc, des épreuves, des souffrances de la vie, c'est évidemment une question qui est délicate, c'est complexe. Ça fait intervenir beaucoup d'éléments humains, spirituels, psychologiques. Il y a toujours une part quand même de scandale qui reste. Je pense qu'on ne trouvera jamais des explications totalement satisfaisantes. Donc ça reste toujours une question un peu brûlante et un choc. Mais ce que je voudrais essayer de faire, donc, c'est de vous donner, non pas une recette, mais de vous faire quelques réflexions qui peuvent nous aider dans ces temps difficiles, qui peuvent nous aider à les traverser. Alors, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas une espèce de recette définitive qui permet de résoudre tous les problèmes, bon, parce que les problèmes, il y en aura toujours, puis il y aura toujours des choses pas toujours très claires dans notre vie, mais donc ce n'est pas une recette applicable à toutes les situations comme ça, qui résout tout en 3 minutes. La vie est plus complexe, mais ce que je pense vous donner quand même à travers ce que je vais dire, en me basant sur l'Écriture, sur l'expérience de l'Église, vous donner quelques points de repère, quelques flashs qui peuvent nous aider justement dans ces moments difficiles à pas paniquer, mais à essayer de voir comment le Seigneur nous invite à traverser ces moments, comment il est bon de nous situer, comment réagir dans les temps d'épreuve que nous connaissons parfois. Une autre remarque que je veux faire, qui est claire aussi, c'est que dans la vie, il y a des épreuves qui sont de nature extrêmement différente. On peut vivre un divorce, on peut avoir un problème de couple, on peut avoir des problèmes économiques, on peut avoir des difficultés de santé, on peut connaître un cancer, on peut avoir des problèmes dans sa vocation, dans sa vie spirituelle, dans sa communauté. Donc il y a une diversité extrême des épreuves que l'être humain peut connaître. Bon, heureusement, en général, elles n'arrivent pas toutes en même temps. Mais enfin, il y a une grande diversité, et puis je dirais que c'est aussi une diversité qu'en un certain sens, il faut respecter. On n'aborde pas tous les problèmes de la même manière. Comme vous le savez, il y a des gens qui s'accompagnent, qui se spécialisent, par exemple, pour accompagner des couples en difficulté, pour accompagner quelqu'un qui est en deuil, ou bien accompagner quelqu'un qui traverse un cancer, ou qui a des enfants qui se droguent. Donc il y a des gens comme ça un peu spécialisés dans certains types d'accompagnement. Et c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes contextes, les mêmes émotions, les mêmes problématiques auxquelles on est affronté. Donc il y a une diversité qui est tout à fait légitime dans la manière d'accompagner différents types de situations d'épreuve. Bon, ceci dit, je crois qu'il faut donc respecter cette diversité, mais on peut quand même percevoir dans toutes les épreuves, alors en plaçant d'un point de vue plus spirituel, plus de la vie chrétienne, de l'Écriture, on peut quand même remarquer que dans toutes les épreuves qu'une personne peut connaître durant sa vie, il y a quand même des points communs, oui. Certains points communs, et c'est un petit peu autour de ça que je vais parler, parce que c'est justement en réfléchissant un peu sur ces points communs qu'on peut trouver peut-être des lumières, des repères, non pas pour rendre tout simple et facile, mais pour avancer, pour traverser la mer Rouge vers la terre promise. Enfin, la mer Rouge n'a pas été trop difficile, parce que c'est ouvert toute seule. C'est l'heure qui a dû presser un peu Moïse d'arrêter ses discours et de commencer à prier. Bon. Donc l'idée que je vais développer, c'est une idée qui est assez simple, mais qui a des répercussions, des résonances assez importantes et diverses. Donc l'idée que je vais développer, vous voyez, c'est que, en plaçant de ce point de vue spirituel, c'est que dans toute épreuve de la vie, je parle pour un chrétien là. Alors, dans ce que je vais dire, il y a beaucoup de choses qui sont valables pour tout le monde, évidemment, mais je me place quand même dans cette perspective chrétienne. parce que finalement c'est plus simple, que toute épreuve que connaît une personne humaine, ça peut être soit une épreuve de la foi, ça peut être une épreuve de l'espérance, et ça peut être aussi une épreuve, c'est aussi une épreuve de l'amour, de la charité. Alors l'épreuve, elle peut être très différente, ça peut être un problème économique, un problème familial, ça peut être tout ce que vous voulez, hein, comme je l'ai déjà dit, mais quand même, dans toute épreuve, que si je suis croyant, chrétien, à partir du moment où je vis un temps d'épreuve, bien c'est clair qu'il y a ma foi qui est mise à l'épreuve, mon espérance qui est mise à l'épreuve, et puis aussi ma capacité d'aimer, hein, qui est mise à l'épreuve. Et je pense que c'est intéressant de mettre ça en lumière. Alors, je vais prendre chacun de ces trois points en essayant de développer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire en pratique. Oui, toute épreuve est une épreuve de la foi. Oui, si je suis chrétien et puis qu'il m'arrive une grosse tuile, alors ça peut être une maladie, ça peut être un problème, bon, peu importe, hein, mais j'ai une grosse tuile qui me tombe dessus, je suis chrétien, je crois en Dieu, j'essaye de faire de mon mieux pour être un chrétien pas trop mauvais, puis voilà qu'il y a une grosse tuile qui me tombe dessus, hein, que je n'attendais pas du tout, et puis vraiment qui me touche de manière douloureuse. Alors c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui affecte notre foi, hein, parce qu'évidemment quand on vit ce genre de situation, on se pose toujours cette question, mais qu'est-ce que fait le bon Dieu ? Pourquoi est-ce que le bon Dieu permet ça ? Est-ce qu'il est en train de me punir ? Est-ce que je peux encore compter sur lui ? Est-ce que Dieu est vraiment bon et miséricordieux ? Est-ce qu'il est fidèle ? Est-ce qu'il n'est pas en train de me lâcher ? Est-ce que je peux encore compter sur lui ? Donc vous voyez, il y a tout un questionnement de notre foi. Et un questionnement qui parfois peut être très rude. Il peut arriver des personnes qui, justement, à cause d'une épreuve trop douloureuse, ont perdu la foi. Alors peut-être qu'elle n'était peut-être pas encore suffisamment enracinée, bon, probablement, mais en tout cas la foi peut être mise en question de manière assez violente, hein, dans des épreuves difficiles. Alors, donc la question, que fait Dieu ? Est-ce que Dieu est vraiment ce Dieu d'amour sur lequel je peux m'appuyer, hein, ou pas ? C'est ça le questionnement, l'épreuve de la foi. Alors, évidemment, cette épreuve peut être parfois douloureuse, déstabilisante, hein, je l'ai dit, mais peut-être qu'on peut aussi considérer un certain aspect positif là-dedans. Vous voyez, parce que justement, le fait que je vive ce temps difficile et que ma foi soit un petit peu secouée par cette difficulté, eh bien, ça m'oblige quelque part à poser des actes de foi, vous voyez. Dire, ben oui, c'est vrai, je suis secoué, je ne comprends pas, j'ai l'impression que le bon Dieu, il s'est absenté, qu'il est aux abonnés absents, mais non, je crois quand même, hein, parce que j'ai la Bible sous la main, parce que j'ai mon éducation chrétienne, j'ai le témoignage des saints, donc je veux continuer à croire. Oui, donc l'épreuve, elle met la foi en épreuve, en difficulté, mais en même temps, elle peut devenir un appel à poser des actes de foi. Et ce qui veut dire aussi, vous voyez, que la foi devient plus profonde, elle devient plus adulte. Oui, c'est pas simplement la foi de la personne qui a jamais eu de problème, oui, la personne qui a la foi parce que j'ai toujours cru dans ma famille de génération en génération, on est des bons catholiques, on va à la messe tous les dimanches et je n'ai jamais posé trop de questions. Pour moi, ça a toujours été naturel de croire. Bon, ça m'a jamais fait de difficultés particulières. Bon, mais là, ça commence à me faire des problèmes. Hein. Alors, d'un côté, c'est douloureux, mais d'un autre côté, c'est aussi quand même une opportunité, hein, d'une foi plus profonde. Non pas simplement une foi qui est une habitude, hein, une belle tradition familiale. Enfin, j'ai rien contre les traditions familiales, mais parfois, ça suffit pas. Oui. Donc, on peut pas se contenter dans ces moments-là d'une foi qui est une simple habitude, une tradition familiale ou culturelle, mais ça doit devenir une foi décidée. Je choisis de croire, hein, personnellement. Voilà, je pourrais douter, je pourrais accuser Dieu, je pourrais me révolter. Bon, mais je préfère faire confiance. Un peu comme nous y invite la Bible, c'est pour ça qu'elle est très utile. Je suis tombé sur le bon texte, donc ben voilà, non, je vais être patient, je vais faire confiance. Je crois que Dieu ne m'abandonne pas, et puis j'essaie d'avancer malgré la difficulté dans laquelle je me trouve. Et là, il y a quelque chose qui est beau en fin de compte, vous voyez. Parce qu'il y a un progrès dans la foi. Plus décidé, plus personnel, plus adulte, vous voyez. Et c'est un thème qu'on trouve assez souvent dans l'écriture, justement, que le temps d'épreuve, c'est un temps aussi où la foi est mise à l'épreuve, mais c'est un temps où la foi peut grandir, peut se purifier. C'est pas simplement une foi culturelle ou basée sur des choses un petit peu humaines, mais c'est une foi qui est vraiment cette foi que l'Esprit Saint nous aide à garder, dans laquelle je me décide profondément pour le Seigneur. Je me décide à croire. Voilà. Donc c'est plus personnel, plus profond et c'est plus positif. On trouve ça par exemple dans le texte que je viens de lire, mais aussi vous avez ça dans Saint Pierre qui dit aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi qui est bien plus précieuse, qui a bien plus de prix que l'or. Mais quelque part l'épreuve c'est aussi ce qui vérifie la qualité de notre foi. Est-ce qu'elle est simplement infantile et immature et qu'on aime Dieu seulement quand il nous fait des coucounes et des câlins, et puis que quand ça devient difficile, ben on laisse tomber, oui. Oui, donc c'est l'occasion, donc c'est un appel, on pourrait dire un peu comme ça, c'est un peu le langage que je vais utiliser, à ce que l'épreuve d'un côté est mystérieuse, difficile, scandaleuse, mais d'un autre côté, l'épreuve peut être aussi accueillie comme un appel à poser des actes de foi. À se décider plus profondément pour le bon Dieu, pour faire confiance à Dieu, pour croire en son amour, en sa fidélité. Donc voilà, en ce qui concerne la foi, je pense que c'est clair. Alors maintenant, on va passer au deuxième point. Il y aura des questions après. On va passer au deuxième point, qui est que toute épreuve est aussi une épreuve de l'espérance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous vivons des temps de difficultés, eh bien, il se pose cette question, sur quoi je peux m'appuyer, sur qui je peux compter, oui, de qui je peux attendre le salut. Là, j'ai un moment difficile, je me sens un peu perdu, qu'est-ce que je peux attendre, qu'est-ce que je peux espérer de Dieu, oui. Donc c'est aussi, pas seulement la foi, mais c'est aussi l'espérance qui est mise un petit peu en discussion. Et une manière un petit peu d'exprimer cette épreuve de l'espérance, dans un langage un peu différent, mais qui est important, que je vais utiliser, oui, c'est que quand nous vivons comme ça des temps d'épreuve, nous vivons toujours une certaine pauvreté, un certain appauvrissement dans tel ou tel domaine de notre vie, ou pour dire autrement, nous perdons certaines sécurités. Oui, des choses sur lesquelles on s'appuyait, qui étaient solides, puis voilà que eh bien, le plancher commence à pu être tout à fait aussi solide qu'avant sous nos pas. Alors, on peut perdre parfois des sécurités physiques. Vous voyez, j'étais un type super costaud, tous les matins je fais 10 km avant d'aller au travail pour me mettre en forme, j'ai une bonne santé, c'est super et j'en suis content, vous voyez. Mais puis voilà que j'ai un temps de maladie, de fragilité, j'ai des problèmes de genoux, et donc cette belle forme physique que j'étais super content d'avoir, bon, elle n'est plus là. Donc je perds une sécurité, de la bonne santé. Bon, on peut perdre aussi une personne, une personne qui était un ami, un conjoint, une personne importante sur qui je m'appuyais, par exemple un père spirituel qui me donnait des bons conseils, je le vois une fois par mois, et puis il avait une grande sagesse, et c'était super de savoir que je pouvais recourir à lui, puis voilà que ce brave jésuite qui était mon père spirituel, il fait une crise cardiaque, et puis il part au paradis sans me demander la permission. Oui. Et je leur veux un peu m'avoir lâché. Oui. Vous voyez, ou bien il a été nommé au Canada, ou je ne sais pas où. Bon. Donc c'est souvent ça, un temps d'épreuve. C'est aussi une personne qui était un appui, une sécurité précieuse, et puis dont je ne dispose plus. Donc une solitude, un sentiment d'abandon parfois, qu'on peut rencontrer, et qui n'est pas facile évidemment au plan humain. On peut aussi parfois vivre des épreuves dans le domaine de la vie spirituelle, vous voyez, dans le domaine de sa vocation, dans la vie de prière. On peut aussi, oui, un autre type de sécurité, vous voyez que parfois on peut perdre aussi, oui, supposons une personne, par exemple, très intelligente, très cultivée, qui a lu tous les bouquins qu'il faut lire, la Somme théologique en 15 volumes, qui a réponse à toutes les questions, puis cette brave personne, si heureuse de son savoir, de ses connaissances et de ses 5 doctorats en ceci et en cela, ben voilà qu'elle commence à sentir un petit peu que sa mémoire vacille, qu'elle se rappelle plus tout ce qu'elle a appris à l'école, et donc cette sécurité d'une intelligence, d'un esprit brillant, ben voilà aussi que quelque part elle m'est un petit peu enlevée. Je me sens plus pauvre aussi dans mes capacité d'affronter les problèmes au niveau intellectuel. Bon, autre type de sécurité qu'on perd, bon, supposons par exemple une communauté qui marche très bien, super communauté, tout le monde a dit du bien dans les journaux, avec des bons responsables, une bonne formation, puis voilà qu'un jour, il arrive que dans cette communauté, il y a des problèmes. Il y a des scandales ou des divisions, et puis voilà. Et la personne qui appartient à cette communauté, eh bien, c'est pas facile pour elle. Parce qu'appartenir à cette bonne communauté, super, bien organisée, eh bien, c'était une sécurité pour moi. Et puis voilà que je me rends compte que cette communauté, dont j'avais fait une sécurité, eh bien, elle est plus fragile que ce que j'imaginais. Alors, ça peut être l'Église, ça peut être une communauté, une famille, n'importe quoi. Oui, parfois aussi, on est sécurisé par des institutions auxquelles on appartient, ce qui est une bonne chose en soi. Mais on peut s'apercevoir un jour que toutes les institutions ont leur fragilité, ont leurs limites, et que donc, à certains moments, cette sécurité aussi peut être moins forte que ce qu'elle était pour nous précédemment. Bon, alors on pourrait donner d'autres exemples comme ça, vous voyez, hein, de certaines sécurités. Hein, qui étaient importantes dans notre vie, puis qui disparaissent, enfin pas toutes, hein, heureusement, mais dont certaines disparaissent à tel ou tel moment de notre vie. Hein. Donc c'est une forme d'épreuve, c'est une forme de pauvreté, c'est douloureux, c'est déstabilisant, hein. Parfois on peut se sentir abandonné, on peut se sentir même un peu trahi, on peut en vouloir à certaines personnes, on peut en vouloir à l'Église ou je ne sais pas quoi, donc c'est un côté évidemment douloureux au plan de vue humain, mais là aussi peut-être qu'on peut regarder un autre versant, et se dire qu'il y a peut-être quelque chose de positif là-dedans aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Eh bien, je dirais, c'est cette invitation à mettre notre sécurité en Dieu. Oui, en Dieu seul. Que finalement, notre ultime sécurité, notre rocher, notre roc solide et résistant et qui ne peut pas nous lâcher, ce n'est pas la santé, ce n'est pas la culture, ce n'est pas les institutions humaines, ce n'est pas les personnes, mais notre ultime sécurité absolue, c'est Dieu. C'est ça notre sécurité absolue, c'est que Dieu est fidèle, que rien n'épuisera jamais la miséricorde de Dieu. Quelles que soient mes erreurs et mes bêtises, bien Dieu sera toujours là pour me récupérer et me rattraper si je vais me tourner vers lui. Vous voyez, c'est Dieu. La Bible insiste tellement là-dessus, elle parle de Dieu comme notre rocher, notre sécurité, notre force, notre rempart, enfin, notre bouclier. Enfin, on pourrait faire toute une litanie comme ça des termes bibliques qui nous invitent justement à mettre en Dieu notre sécurité. Alors je ne dis pas que c'est toujours facile au niveau humain, parce que ça suppose un peu un saut dans la foi. On préfère être rassuré par des choses qu'on sent, qu'on touche, vous voyez, que d'être un peu dans ce vide. Mais je dirais que c'est quand même ça l'invitation qui nous est faite. Oui, tu te sens fragile, tu te sens pauvre, bien mets en Dieu ta sécurité, mets en Dieu ton espérance. Seigneur, c'est toi mon espérance, c'est toi mon appui, c'est toi mon secours. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Comme dit le psaume, d'où viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur. Donc c'est ça l'épreuve de l'espérance. D'où viendra le secours? Dans ma fragilité, ma pauvreté, mon insécurité, bien, crier vers Dieu et dire, oui Seigneur, c'est toi qui seras mon secours. J'espère en toi. J'espère plus beaucoup en ceci ou en cela, mais en toi je continue à espérer. Je sais que tu seras fidèle. Donc là aussi, vous voyez, c'est positif en fin de compte, parce que ça veut dire que notre espérance devient plus forte, oui, plus centrée sur Dieu. Donc pas tellement une espérance facile, parce qu'on a les appuis qu'on aime sentir au plan humain, on est plus pauvre, plus fragile, mais en même temps, c'est pour nous une occasion de nous appuyer davantage sur le Seigneur. Et donc peu à peu d'expérimenter que Dieu est fidèle, que Dieu n'abandonne pas le pauvre qui met en lui son espérance, comme le dit très souvent l'Écriture. Ce que je voudrais aussi un petit peu ajouter, je reviendrai un peu là-dessus, c'est que parfois aussi, ce qui est douloureux dans certains temps d'épreuve, c'est pas simplement de perdre certaines sécurités extérieures, une institution, une personne, mais parfois aussi c'est de nous sentir nous-mêmes plus fragiles, plus pauvres, vous voyez. J'étais quelqu'un d'un peu prétentieux, comme Pierre, disons, avant son truc. Je pensais que je pouvais traverser toutes les épreuves, que je tiendrais debout, quoi qu'il arrive. Puis je m'aperçois finalement, dans l'épreuve elle-même, que je suis plus fragile que ce que je pensais. Oui. Parfois, on s'appuyait beaucoup sur soi aussi, sans trop s'en rendre compte. Mais dans le temps de l'épreuve, on s'aperçoit que soi-même aussi, on est plus fragile, plus pauvre que ce qu'on imaginait. Je pensais jamais être capable de faire telle bêtise, bien voilà que je l'ai faite. C'est Saint-Pierre, hein. Seigneur, jamais je ne te trahirai, ben, il l'a fait. Et ça nous arrive à tous parfois de dire, ben, cette bêtise-là, je ne la ferai jamais. Et puis un jour, enfin, je ne dis pas qu'on fait toutes les bêtises, heureusement quand même, Dieu nous protège, mais de temps en temps, ça nous arrive, vous voyez, de réaliser aussi dans le contexte de l'épreuve que je suis plus fragile que ce que je pensais. Et parfois, c'est un peu dur, parce que c'est très dur pour l'orgueil. Je pensais être la personne super, mature, le chrétien qui entraîne tout le monde dans la paroisse, puis je m'aperçois que finalement, comme l'a réalisé le prophète Élie, je ne suis pas meilleur que mes pères, je ne suis pas meilleur que les autres. Moi, je suis fragile et pécheur. Et finalement, c'est une bonne expérience, parce que là encore, ça nous invite à trouver notre sécurité, non pas en soi-même, dans une espèce de prétention, oui, d'illusion, mais à mettre ma sécurité dans le Seigneur, dans sa miséricorde. Seigneur, je suis pauvre et fragile, mais je ne me décourage pas parce que ce n'est pas en moi que j'espère, c'est en toi que j'espère. Si je devais espérer en moi, ce serait vite le découragement, mais heureusement, c'est en Dieu que j'espère. Oui, placer en Dieu son espérance. Il y a comme un peu un basculement, vous voyez. Avant, très souvent, on plaçait en soi son espérance sans s'en rendre compte. Mais dans ces moments-là, on est obligé de placer en Dieu notre espérance. Alors, ce n'est pas confortable, hein, ce n'est pas agréable pour l'orgueil, mais c'est bon, hein, pour la vérité, pour l'humilité, pour la, aussi le, et c'est ça qui finalement nous aide à nous appuyer davantage sur le Seigneur. Et donc, finalement, on y gagne. Hein, on y gagne à s'appuyer plus sur Dieu et moins sur des sécurités externes ou sur soi-même. Alors, ce n'est pas dire que ces sécurités soient mauvaises. Hein. Quand on les a, tant mieux. Hein, si j'ai des bons amis, un bon père spirituel, un bon compte en banque, ben, tant mieux. Mais le jour où ça me lâche, c'est là qu'il ne faut pas désespérer et apprendre à mettre en Dieu son espérance et sa confiance. Bon, c'est clair ce que je vous dis ?
Oui.
Vous êtes d'accord ?
Oui.
Ah, ben, ça c'est super. Alors... maintenant, je vais parler du troisième point. Ça m'a fichu, ces machins. Donc, l'épreuve est très souvent une épreuve de la foi, de l'espérance, mais que nos épreuves humaines sont aussi des épreuves de l'amour, hein, de la charité. Alors, ça peut exister dans la relation à Dieu. Avec le prochain ou avec soi-même. J'irais dans la relation à Dieu, par exemple. Vous voyez, un genre d'épreuve qu'on connaît tous quand on est fidèle, quand on est chrétien, oui, c'est parfois d'avoir des moments de pauvreté dans la prière, par exemple. Oui, je suis un jeune converti, je sens la présence du bon Dieu, il écoute toutes mes prières, je chante Alléluia du matin au soir, voilà. Puis ça dure 6 mois, puis au bout d'un certain temps, ben, je m'aperçois que tout cet enthousiasme sensible, qui était bon, hein, mais un peu trop sensible, oui, il commence à disparaître, hein, que la prière devient plus aride, plus sèche, que quand je suis devant le Saint-Sacrement, bien, j'ai moins d'enthousiasme, d'élan d'amour, et j'ai plus de distractions, et puis je regarde plus mon horloge, oui. Oui, parce qu'il y a des moments où la prière devient lourde, où la messe, ça commence à me pomper l'air, ou bien, vous voyez, des choses comme ça. Donc, des moments un peu, là encore, d'aridité, de sécheresse dans le domaine de la vie spirituelle, où on sent moins la présence et la tendresse de Dieu. Alors là, évidemment, c'est une épreuve pour notre amour, hein, parce que la question qui est posée, c'est, voilà, tu aimais beaucoup le bon Dieu quand il te faisait des câlins, des caresses, et puis des grâces, et des consolations, et puis qu'il exauçait toutes tes prières. Maintenant que tu as le sentiment que Dieu est un peu plus froid à ton égard, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues à l'aimer ? Est-ce que tu continues à prier ? Ou bien est-ce que tu laisses tomber ? Hein, parfois, c'est une question très concrète, hein, dans notre vie. Oui, la prière devient plus difficile, qu'est-ce que je fais ? Je continue ou j'arrête ? Alors si j'arrête, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je priais pour mon plaisir, hein, parce que ça me faisait du bien. Mais je ne priais pas pour me donner à Dieu de manière libre et désintéressée, vous voyez. Oui, donc il y a, je dirais, là, une purification de l'amour, hein, une invitation à un amour plus pur, hein, à ne pas aimer Dieu simplement quand il nous fait des cadeaux, des gratifications, mais aimer Dieu aussi quand ça devient difficile de l'aimer. Et quand aimer, être chrétien devient difficile, nous coûte, bien continuer. Hein, l'amour devient plus pur. Il y a moins de recherche de soi, et plus le don de soi authentique à l'autre. Alors ça peut exister dans la relation à Dieu. Alors ça existe aussi évidemment beaucoup dans la relation avec le prochain. Vous voyez, alors là on touche des questions très complexes évidemment, mais on ne peut pas tout simplifier trop, mais quand même ça fait partie des points de repère qu'on doit mettre en lumière, ce que j'essaye de faire. Oui, c'est que quand nous vivons, enfin, tous les couples connaissent ça à certains moments, par exemple, vous voyez, hein, et la joie de la découverte réciproque, hein, le bonheur de la tendresse donnée, des fiançailles et tout ça, et c'est génial et c'est super, mais après ça, il y a aussi la vie commune, bon, qui est encore plus belle, parce que justement, là, il y a le moment aussi où la relation avec l'autre peut devenir plus difficile. On voit certaines limites qu'on n'avait pas trop réalisées, on s'aperçoit que cette personne n'a pas toujours aussi bon caractère que je voudrais qu'elle ait. Donc oui, ces moments un petit peu où l'autre peut me décevoir ou ne pas me donner, je dirais, les mêmes gratifications que celles qu'il pouvait me donner à d'autres moments de ma vie. Voilà, dans une amitié, dans une relation de couple, oui, quand la relation devient difficile, et ça arrive... souvent, eh bien, c'est aussi la vérité de l'amour qui est mise à l'épreuve. Là, cette personne, tu étais follement amoureux de cette personne tant que tu t'y retrouvais, que tu y trouvais ton compte. Maintenant que cette personne, ben, tu t'aperçois qu'elle n'est pas aussi idéale que ce que tu avais imaginé, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de l'aimer ou tu continues à l'aimer? Est-ce que tu aimes pour toi ou bien est-ce que tu aimes comme Jésus nous a aimés? Pour le bien de l'autre, qu'est-ce que c'est qu'aimer? C'est chercher le bien de l'autre, c'est se sentir responsable de l'autre quand il nous plaît, mais aussi quand la relation est peut-être moins gratifiante. Oui. Donc il y avait évidemment dans le domaine des relations humaines, c'est très très fréquent cette problématique. Alors c'est pas facile, vous voyez, d'être déçu, blessé par quelqu'un, mais ça peut être l'occasion justement d'un amour plus pur. De pas aimer l'autre simplement pour ce que je reçois de lui, mais aimer l'autre parce qu'il a besoin de moi. Oui. Il y a comme un peu un virage, alors qu'il n'est pas facile, mais qu'il faut faire. Oui. Dans les temps de crise, eh bien, apprendre à aimer de manière plus évangélique. Non pas aimer dans une recherche de soi, de gratification, mais aimer dans un amour désintéressé. Comme Jésus l'a fait pour nous, comme il nous y invite. Quand tu fais un festin, ben, n'invite pas seulement tes riches amis qui peuvent te le rendre, mais invite les pauvres, les boiteux qui ne pourront rien te rendre. Donc c'est comme une éducation, vous voyez, une étape. Alors parfois on a du mal parce qu'on veut rester des petits enfants. Enfin, il y a une bonne manière d'être enfant, mais il y a une mauvaise manière d'être enfant. Il faut continuer à être le petit enfant qui réclame ses usettes. Oui, puis on ne veut pas passer à la classe supérieure, on veut rester à la maternelle, mais on ne veut pas passer dans la classe supérieure. Il y a des moments dans la vie, il faut passer à la classe supérieure. Donc apprendre la patience, apprendre la miséricorde, apprendre le pardon, apprendre à aimer l'autre tel qu'il est, et non pas tel que je rêve qu'il soit, etc., etc., etc. Bon, c'est des choses que vous connaissez évidemment, et mieux que moi, et pratiquez mieux, j'espère, mais il faut en reparler. Donc, alors, il y a ce côté, donc, alors, comme je l'ai dit aussi un petit peu avant, ce qui est en cause, c'est parfois donc, la vérité de l'amour de Dieu, la vérité de l'amour du prochain. Mais parfois, c'est aussi la vérité de l'amour de soi-même qui est mis en cause. Oui, tu t'aimais bien toi-même, tant que tout allait bien, que tu étais victorieux dans tous tes combats, etc. Et maintenant que tu te vois pauvre, fragile et pécheur, est-ce que tu continues à t'aimer, à t'accepter, à croire dans la grâce qui repose sur toi? Oui, donc ce qui est mis à l'épreuve, c'est pas toujours l'amour de Dieu, c'est pas toujours l'amour du prochain, c'est parfois l'amour de soi-même. C'est, autrement dit, la capacité à s'accueillir soi-même, à se considérer soi-même comme enfant de Dieu, puis avoir confiance dans la grâce qui repose sur moi. Oui, donc, alors il peut y avoir les souffrances et les difficultés, mais il y a aussi le côté positif. Hein. Autrement dit que cette difficulté de relation, eh bien, je peux aussi l'accueillir, pas simplement comme une tragédie, mais je peux l'accueillir aussi comme une invitation, comme un appel à un amour plus pur, hein, plus désintéressé, hein, plus libre, vous voyez, hein, plus pur de l'égoïsme, du désir de possession, etc. Mais un amour plus respectueux de l'autre, plus délicat, plus accueillant à l'autre, plus patient, plus miséricordieux. Oui, bon. Donc il y a cette invitation, cet appel qui nous est adressé. Alors c'est pas toujours facile de dire oui, parce qu'on résiste un peu, mais quand on dit oui, c'est beau. Vous voyez, quand on dit ça, par exemple, dans une relation, voilà cette personne, eh bien c'est vrai qu'elle commence un peu à me décevoir, eh bien je veux continuer à l'aimer. Je vais essayer de l'aimer d'autant plus qu'elle me déçoit. Donc c'est plus seulement l'amour épidermique, émotionnel, ça devient l'amour décidé. Hein, l'amour comme décision, hein, comme choix. Hein, parce que aimer, c'est choisir d'aimer. Hein, aimer, c'est se décider à aimer. Alors parfois c'est très simple et facile. Parfois, évidemment, c'est une décision qui est plus coûteuse, mais c'est quand même la bonne décision, hein, de choisir d'aimer. Hein, que l'amour soit victorieux dans notre cœur, dans notre volonté. Voilà. Donc j'ai un peu développé la première partie, ce que je voulais vous dire. Et puis ce que je voudrais maintenant, c'est essayer d'en tirer des conclusions. Parce que je pense qu'à partir de cette analyse un petit peu que j'ai faite, on peut en déduire des choses importantes pour notre conduite personnelle dans les temps d'épreuve. Oui. Oui, ce qu'on peut conclure de ce que je viens de dire, c'est que peut-être... Oui, quand nous vivons des temps d'épreuve, bien sûr, nous cherchons à résoudre les problèmes. C'est tout à fait normal. Si je peux me réconcilier, si je peux guérir, si je peux retrouver un travail, bon, tout ce que nous faisons pour résoudre les problèmes, c'est tout à fait légitime. Évidemment, il ne s'agit pas d'être passif et paresseux. Donc il y a ce travail de solution, je dirais, qui est évidemment nécessaire. Mais il y a aussi un autre travail que peut-être parfois on oublie un petit peu. Et c'est là-dessus que je voudrais vous rendre plus attentif, parce qu'en fin de compte, c'est le travail le plus important. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, vous voyez, c'est que ce qui me paraît le plus positif Quand une personne vit un temps d'épreuve, c'est pas simplement de résoudre le problème. Oui, parce que, oui, parfois je peux avoir un temps d'épreuve, je résous le problème, et puis tout revient comme avant. Alors c'est peut-être bien, mais c'est peut-être un peu dommage aussi que tout soit comme avant, qu'il n'y ait pas eu un progrès à travers tout ça. Ce serait un peu dommage quand même. Autrement dit, il me paraît important aussi d'être attentif à cet autre aspect de la vie. Et je crois que c'est très important quand quelqu'un vit un temps d'épreuve, c'est d'essayer de découvrir, dans cette épreuve, quel est l'appel qui m'est adressé, que je peux peut-être peu à peu reconnaître. Quels sont les actes de foi que je suis invité à poser, les décisions de foi, de confiance, que je suis invité à poser dans cette situation. Quelles sont les attitudes d'espérance, autrement dit, les pauvretés que je suis invité à accepter, en mettant plus en Dieu mon espérance, en m'appuyant plus sur le Seigneur, oui. Mettre plus mon espérance en Dieu. Oui. Donc comment être plus dans la foi, comment être plus dans l'espérance et comment aussi, quel est l'appel qui m'est adressé pour un amour plus pur. Ça peut être de mon conjoint, ça peut être de mes enfants, ça peut être de qui vous voulez, de Dieu ou de moi-même, comme je l'ai évoqué. Et donc moi, il me semble très important, vous voyez, très positif, de permettre à une personne qui est dans l'épreuve, non seulement d'avoir les solutions à ses problèmes, et c'est tant mieux si on les trouve, mais on les trouve pas toujours toutes, mais c'est très important aussi d'aider la personne non seulement à trouver des solutions, mais aussi à vivre un certain chemin intérieur et à découvrir au cœur de l'épreuve qu'elle traverse les appels que Dieu lui adresse. Quel appel à la foi, quel appel à l'espérance, quel appel à aimer davantage Dieu te propose au cœur de cette épreuve. Oui, parce que quand une personne, oui, supposons une personne qui vit un temps difficile, puis au début elle est perdue, elle se débat, tout ça, puis peu à peu, cette personne commence à comprendre un petit peu, finalement, quel est l'appel de Dieu au cœur de cela. Oui, l'appel à l'abandon, à la confiance, l'appel à l'espérance, l'appel aussi à des progrès dans l'amour, l'appel à être plus miséricordieux, l'appel à pardonner, l'appel à être plus patient, l'appel à prier davantage, à s'appuyer plus sur le Seigneur. Vous voyez, il y a comme, oui, l'Esprit Saint ne nous abandonne pas. Hein, et Dieu est présent dans les épreuves, non pas comme la baguette magique qui résout tout, hein, ce qu'on voudrait parfois, mais Dieu est plutôt présent dans l'épreuve comme celui qui nous accompagne, hein, qui nous invite à percevoir certains appels, vous voyez, certains mouvements vers lesquels il veut avec douceur et amour nous pousser, des invitations à grandir, vous voyez. Dans le domaine de la foi, de l'espérance et de la charité, comme je l'ai dit. Et quand une personne qui est éprouvée comme ça commence à percevoir cet appel de Dieu, eh bien c'est très positif parce qu'elle n'est plus perdue. Elle sait un peu dans quel sens cheminer. Oui. Puis elle reprend un peu sa vie en main parce qu'au lieu d'être la personne qui est simplement victime et passive, ben elle se décide à croire, elle se décide à espérer, elle se décide à aimer mieux, elle se décide à pardonner, par exemple. Et donc la personne est en train de grandir, en fait. Oui, elle reprend sa vie en main, elle a un chemin, il y a des portes qui s'ouvrent, elle n'est plus complètement perdue et complètement comme elle pouvait sembler l'être psychologiquement un petit peu avant. Donc, tout ça pour dire que peut-être que ce qui est très très important dans des temps d'épreuve, c'est de voir quels sont les moyens qui nous permettent de discerner les appels du Seigneur dans cette épreuve, à travers cette épreuve. Qui sont comme contenus dans l'épreuve elle-même, voyez. Et donc c'est ça que je voudrais développer maintenant. Hein. C'est donc dans ces temps d'épreuve, quelles sont un petit peu les attitudes à pratiquer, hein, pour que peu à peu nous puissions comprendre, je dirais, un petit peu le sens de cette épreuve. Enfin, non pas le sens au sens d'une explication qui ferait que tout serait clair, mais le sens, je veux dire, quel est le chemin dans lequel je dois m'engager. Voilà, je suis dans un moment difficile, mais je découvre qu'il y a quand même un chemin dans lequel je peux avancer. Et ça change tout, voyez? Parce qu'on est quelqu'un qui avance, oui, et non plus quelqu'un qui est paumé dans quelque chose qu'il ne, où il se sent perdu. Alors, donc, qu'est-ce qui permet de faire un peu à peu, de faire naître ce discernement, cette lumière? Alors là, il n'y a pas de recette, hein. Il n'y a pas de programme d'ordinateur qui va fonctionner pour nous donner la réponse, mais il y a des attitudes, hein, qu'on peut mettre en pratique. Alors, je vais en donner quelques-unes, hein, qui me paraissent les plus importantes. Alors, l'ordre n'importe pas. Là, je vais les dire dans un certain ordre, mais ça peut être dans un ordre différent, hein, peu importe. Je dirais qu'une première chose, évidemment, qui est importante dans les temps d'épreuve, c'est de se confier à Dieu. C'est donc la prière. Attache-toi au Seigneur. Mais confie-toi à Dieu, remets-toi entre les mains de Dieu. Peut-être que le bon Dieu t'y pensait plus beaucoup hein, depuis des années, depuis ta première communion où tu as lâché l'Église, mais là c'est le moment de repenser à Dieu. Bon, il aurait préféré peut-être d'autres chemins, mais hein, et puis l'épreuve, c'est pour beaucoup de personnes l'occasion de retourner vers Dieu. Et retourner vers Dieu, c'est une grâce, hein, parce que c'est là qu'est le secours et l'espérance et le réconfort hein, dont on a besoin. Donc vous voyez, se confier à Dieu, hein, invoquer le Seigneur, se remettre entre les mains de Dieu, prier le Seigneur. Oui, Dieu entend la prière du pauvre. Oui, crier vers le Seigneur. Oui, nous confier à Dieu, nous confier à Marie aussi. Hein, je crois que c'est très précieux. Marie, elle a une tendresse particulière pour les personnes dans l'épreuve. Hein, on le sent bien ici à Lourdes. Hein, et puis Marie, elle peut nous aider à nous rapprocher de Dieu plus facilement, parfois. Donc nous confier à Dieu, nous confier à Marie. Hein, oui, Marie, secours des chrétiens. Ben, une prière que j'aime beaucoup, et chaque fois que je me sens un peu paumé, je la dis, c'est la prière de Saint Bernard, le souvenez-vous. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire, hein, qu'au gain de ce, hein, que vous n'avez jamais abandonné personne. Oui, donc, se réfugier en Dieu, hein, se réfugier en Marie. Oui, non pas comme un cocon où on veut retrouver une sécurité qu'on a perdue, mais on sait que c'est là, hein, que finalement les vraies solutions, hein, on va les trouver, hein, dans l'amour de Dieu, dans le mystère de Dieu, puis dans la maternité de Marie à notre égard. Bon, j'insiste pas, mais évidemment c'est essentiel. Bon, une deuxième chose qui est vraiment très importante aussi, c'est d'accepter le réel. Hein, d'accepter que les choses ne soient plus comme avant. Hein, oui, accepter l'épreuve. Hein, dire oui, bon, je reconnais que je suis malade. Bon, c'est un cancer et j'ai pas peur de dire que c'est un cancer. Hein, je dis pas que c'est une gentille petite tumeur, de rien du tout, que de toute façon. Oui, bon, oui, il faut accepter le réel. Même si c'est dur pour nous, parce qu'il y a un deuil à faire de peut-être de choses qu'on possédait avant, un deuil de certaines sécurités. Bon, puis c'est sûr que ce n'est pas en 3 minutes qu'on accepte. Parfois, il faut du temps. Hein, il y a parfois le temps de la révolte qui peut être normal, mais il ne faut pas s'y enfermer parce que ça ne résout rien. Il y a le temps de la résignation un peu tristounette, mais il faut qu'il y ait le temps du consentement. Hein, le temps où on dit oui, mais écoute Seigneur, j'accepte cette nouvelle situation. Hein, ce n'est pas le chemin que j'aurais choisi. C'est pas ça que j'aurais voulu, mais je l'accepte, je te fais confiance. Oui, accepter le réel. C'est là que Dieu travaille. Alors parfois, je dis pas que c'est facile, hein, ça peut prendre du temps, hein, mais je dirais que plus vite on accepte la réalité, eh bien plus vite on sera en paix, hein, et plus vite on permettra à Dieu de nous parler, de nous guider dans sa sagesse. Bon, une troisième chose qui est très importante aussi dans les temps d'épreuve, c'est de vivre le moment présent. Et de vivre un jour après l'autre. Thérèse, elle dit que dans les temps d'épreuve, c'est parce qu'on pense au passé et qu'on pense à l'avenir qu'on se décourage. Mais essayons simplement de bien vivre aujourd'hui. Bon, mon passé, je le remets à la miséricorde de Dieu, le futur, je le remets à sa providence, et j'essaye aujourd'hui de bien vivre. Le peu que je peux faire, hein, de vivre dans la confiance, dans la foi, dans la prière, et puis de faire quand même le bien que je peux faire, voyez, parce que la vie ne s'arrête pas. Hein. Il y a quand même si je suis limité dans certains domaines, il y a quand même un bien que je peux accomplir, des responsabilités que je continue à exercer. Voyez. Donc je dirais, confions le passé à Dieu, confions l'avenir à sa providence, et puis je fais aujourd'hui ce qui est possible, hein, pour 24 heures. Hein, et puis, sans m'inquiéter de ce qui va se passer dans l'avenir. Et puis demain, on recommence, oui. Donc un jour à la fois, un jour après l'autre. À chaque jour suffit sa peine, comme dit Jésus. Ne t'inquiète pas pour demain. Fais aujourd'hui ce qui est bon. Cherche le royaume, autrement dit, cherche aujourd'hui à être en contact avec Dieu, être dans la foi, dans l'espérance, dans la prière, et puis à bien vivre ce que tu as à vivre aujourd'hui. Que ce soit te soigner, que ce soit continuer ton travail parce que tu peux, oui, continue à faire le bien que tu peux faire, tout simplement. Et si tu en fais moins qu'avant, peu importe, fais ce que tu peux. Pas plus, mais pas moins non plus, je dirais. Il ne s'agit pas de se déresponsabiliser de tout non plus. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut lâcher parce que reconnaître ses limites, mais le bien qu'on peut faire, il faut continuer à le faire. Mais donc le plus important, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois, un jour après l'autre. Si on commence à se dire, oh là là, je vais supporter ça pendant 15 ans, c'est pas possible. Non, tu n'as pas à le supporter 15 ans, tu as à le supporter un jour. Puis après un deuxième jour. Voilà. C'est ça qui nous affole souvent, c'est la durée, hein, combien de temps. Bon. Mais donc vivre un jour à la fois. Alors, je ne dis pas que c'est toujours simple, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Bon, un autre point qui est important aussi. Alors là, je vais c'est de bien me faire comprendre, être attentif à ne pas nous laisser piéger dans des questions qui pourraient nous enfermer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner deux exemples. Oui, quand une personne traverse un temps d'épreuve, elle se pose 1000 questions. Pourquoi ça m'est arrivé? Quel sens ça a, cette épreuve? Combien de temps ça va durer? Qui est responsable? Etc, etc. Bon, on pourrait donner d'autres exemples, mais c'est vrai qu'en général, dans des temps d'épreuve comme ça, il y a beaucoup de questions qui jaillissent. Ce qui est tout à fait naturel. D'ailleurs, ces questions, on les trouve dans les psaumes. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné, par exemple? Ou bien un autre psaume qui dit, combien de temps, Seigneur, vas-tu me laisser tomber? Combien de temps devrais-je attendre? Le psaume 12, il y a 4 fois de suite. Combien de temps ça va durer, cette histoire? Bon. Donc, vous voyez, toutes ces questions, elles sont normales, elles sont légitimes. Je dirais qu'elles ont parfois des réponses, et tant mieux, mais ce qu'il faut considérer, c'est que certaines de ces questions n'ont pas toujours des réponses, et qu'il faut tout simplement l'accepter, et laisser la question un petit peu de côté. Alors, le premier exemple que je veux évoquer, c'est la question « Pourquoi ?». Oui, tout le monde se pose cette question « Pourquoi ?». Voilà, j'ai rien fait de mal au bon Dieu, j'étais un bon catholique, je vais à la messe tous les dimanches, et paf, il m'arrive ce truc inattendu, pourquoi ? Alors, c'est bien de se poser la question, je ne dis pas que c'est mal. Puis parfois, on peut réfléchir sur des situations, des choses qu'on a faites, tirer des leçons du passé. On peut, bon, y a un travail de réflexion qui peut être utile, qui peut nous faire avancer, mais il faut quand même reconnaître que cette question « pourquoi ?», il n'y a pas toujours de réponse. Et parce que moi, j'ai connu des personnes, vous voyez, qui avaient vécu une épreuve assez douloureuse, et puis 30 ans après, elles se disaient encore « mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ?» Oui, et on tourne en rond. On veut savoir pourquoi, et puis on ne le sait pas, puis on est frustré, puis on se demande encore plus pourquoi. Et oui, on peut donc un peu tourner en rond dans une question où il n'y a pas de réponse. Et donc, qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est de dire, ben voilà, je mets la question de côté. Je ne cherche pas à savoir pourquoi. Dieu sait, ça me suffit. Oui, je ne veux pas avoir toutes les explications sur tous les tenants, les aboutissants de ma situation, de la situation du monde. Bon, j'accepte de ne pas savoir pourquoi. Je laisse Dieu faire, Dieu sait, ça suffit, moi je n'ai pas besoin de tout savoir. Et puis je me dis la chose suivante, c'est que la question la plus importante actuellement, ce n'est pas forcément la question pourquoi, mais c'est la question comment. Autrement dit, ce n'est pas la question pourquoi cette huile est arrivée dans mon existence, mais c'est la question comment vivre la tuile en question. Oui, que faire de la tuile? C'est ça la vraie question. Tu auras toujours une réponse. Comment vivre ma situation de manière positive à la lumière de l'Évangile? Et là, il y a toujours une réponse. Tandis que la question « pourquoi ?» n'a pas toujours de réponse. Et souvent, elle n'en a pas. Jésus l'a dit à Saint-Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne peux pas le comprendre, tu le comprendras plus tard. Donc acceptons cela, vous voyez, de ne pas avoir réponse à tout. Alors, je dis, ça ne veut pas dire qu'il faut être bête et puis pas analyser des situations pour résoudre des problèmes. Il faut nuancer. Mais en même temps, il faut avoir le courage de laisser la question « pourquoi ?» de côté. Parce que, petite parenthèse, ouais, pourquoi est-ce qu'on est tellement anxieux de savoir pourquoi? C'est pour se rassurer, en fait. Oui. Parce que si j'ai tout compris, petit A, petit B, Z, voilà, j'ai tout compris de ce qui se passe, maintenant je sais pourquoi, donc je peux être tranquille. Mais ça, c'est une sécurité humaine. C'est mon intelligence qui peut tout maîtriser. Et ça, ce n'est pas toujours possible. Donc il y a des moments où il faut accepter de ne pas être capable de toujours comprendre pourquoi et de remettre ça à Dieu. Dieu sait, ça suffit. Moi, j'essaye de faire mon chemin. Et la question que j'essaye de résoudre, ce n'est pas la question pourquoi il y a ce problème, mais comment moi, je dois assumer ce problème de manière positive. Quel est le bien que moi, je peux accomplir, vous voyez? C'est clair, ça? Alors, une autre question aussi. Alors là, je vais parler d'une question qui est encore plus délicate. C'est qu'une autre question dans laquelle on peut s'enfermer parfois, c'est la question qui est coupable de ma souffrance, de mon malheur. Alors c'est évidemment une question que spontanément on se pose souvent quand on est dans un temps difficile. On cherche à savoir les causes, et puis très souvent, en pratique, ça veut dire on cherche à savoir qui est responsable. Qui c'est qui a raté une marche, qui a fait l'erreur, où est l'erreur pour que je me retrouve dans le pastis, dans cette situation de détresse. Alors, cette question est légitime, hein, et puis parfois il y a des réponses qui sont claires, et ces réponses permettent justement d'avancer, de savoir qui est responsable, de rendre justice à qui de droit, etc., etc. Mais il faut être attentif que cette question, oui, qui est coupable de ma souffrance, n'a pas toujours de réponse non plus. Hein, en ce sens qu'on ne peut pas toujours identifier une personne, hein, ou une réalité qui est la cause de ma souffrance. Oui, parfois c'est possible, mais pas toujours. Parce que la vie est parfois trop complexe. Il y a trop de fils entremêlés. Supposons par exemple une communauté qui va traverser un temps de crise. Pourquoi? Qui est responsable? Parfois c'est très difficile de savoir. On peut dire oui, mais il y a tel supérieur qui a fait une erreur, il y a telle personne qui a fait ceci, telle qui a fait cela. Mais c'est parfois tellement complexe, tellement mélangé, que c'est un peu difficile d'identifier le coupable. Et ce qui est une tendance très forte chez nous, à laquelle il faut être vigilant, vous voyez. Parce que, vous voyez, quand quelqu'un est dans la souffrance, donc il cherche évidemment des causes pour sortir de la souffrance, donc il cherche un responsable, ce qui veut dire qu'il y a comme un peu une pression psychologique qui fait que très facilement, la souffrance se transforme en accusation. Alors parfois c'est légitime, parce qu'effectivement c'est cette personne-là qui est la cause de mon malheur. Bon. Mais parfois c'est pas légitime du tout, vous voyez. Et donc une personne qui est dans la souffrance, parfois elle a un peu cette tendance à accuser tout le monde. On accuse Dieu, on accuse la société, on accuse le gouvernement, on accuse celui-ci, celui-là, et c'est pas toujours légitime. Parfois c'est plus une pression psychologique, un besoin de coupable, on a besoin d'avoir un coupable sur lequel, plutôt que d'assumer ses propres responsabilités. Oui. Donc je dirais, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a une certaine pente psychologique qui fait que parfois, très facilement, on glisse dans l'accusation, et d'une manière qui n'est pas toujours objective. C'est plus des mouvements de colère, des pulsions, vous voyez, que vraiment une analyse précise de la situation. Oui, et ça, c'est une grande tendance aujourd'hui de beaucoup réagir dans l'émotionnel, plus que de faire l'enquête objective et nécessaire pour voir effectivement où sont ou ne sont pas les responsabilités pour telle ou telle épreuve qui peut m'affecter. Vous voyez. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que soyez attentif à ne pas tomber dans ce piège d'une accusation qui n'est pas légitime. C'est une pente qui est très facile, très naturelle. Mais il faut résister à ça. Et donc accepter parfois de changer un peu les perspectives, de dire, bon, peut-être que la chose la plus importante, c'est pas de trouver un coupable, mais la chose la plus importante, c'est de prendre ma vie en main pour avancer. Ce que je peux toujours faire. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur et de la grâce, et puis les moyens humains dont je peux disposer, je peux toujours avancer. Même si d'autres personnes n'ont pas fait ce qu'elles auraient dû faire. Voilà. Donc soyez attentif à ça, oui. Donc à ces questions dans lesquelles on peut parfois s'enfermer, alors soit une volonté d'explication, soit un besoin d'accusation, qui ne sont pas toujours légitimes et qu'il faut savoir remettre de côté pour tout simplement essayer de faire ce qui est possible. Et puis donc en lien un petit peu à ce que je viens de dire, il y a, je dirais, une autre chose qui est importante donc, quand nous vivons des temps d'épreuve comme ça, c'est donc d'être attentif à garder une certaine pureté du cœur. Oui. Autrement dit, à ne pas être totalement bouffé par l'inquiétude, par le découragement, par la tristesse, par l'accusation, par l'amertume, par la colère, par la révolte. Oui. Qu'on ait ces sentiments, oui. Qu'on ait des mouvements d'amertume, de tristesse, c'est normal, on est des êtres humains. Mais attention que ça ne domine pas complètement notre cœur. Il y a comme un petit peu un effort à faire en se remettant à Dieu, en priant, puis en étant un peu adulte aussi, des hommes de foi, d'espérance. Essayons de faire en sorte que notre cœur, même s'il souffre, il ne soit pas dévoré par la jalousie, par la peur ou bien par la haine contre telle ou telle personne. Parce que ces choses-là ne nous font pas du bien. Oui, ça bouffe notre énergie. Donc il y a aussi, je pense, un certain travail intérieur pour peu à peu abandonner nos colères, abandonner nos ressentiments, oui, abandonner nos tristesses, oui, faire le choix de la confiance, le choix de l'espérance, faire le choix de l'amour. C'est ça qui purifie le cœur, vous voyez, c'est de se remettre dans une disposition de foi, une disposition d'espérance et une disposition d'amour. Oui. Et oui, et donc je pense que quand une personne est un peu attentive à tous ces points-là, donc ce n'est pas une recette, vous voyez, comme dans un livre de cuisine, mais c'est des points de vigilance. Et donc si une personne fait cela, oui, elle accepte la réalité, elle se confie à Dieu dans la prière, elle vit l'instant présent, elle essaye de ne pas se laisser trop parasiter par des questions sans réponse, Elle essaye aussi de retrouver une certaine pureté de cœur, dans ce sens qu'elle ne se laisse pas envahir par des sentiments négatifs. Eh bien, je crois que peu à peu, cette personne va comprendre comment avancer. Oui, que cette épreuve, même si elle est douloureuse et difficile, elle est pour toi une possibilité. Oui, donc la personne va commencer à découvrir ce que je disais un peu plus tôt, elle va découvrir quelle attitude de foi je suis invité à pratiquer, quel appel à l'espérance il y a dans cette épreuve, et puis aussi quelle invitation, quelle décision dans l'ordre de l'amour je suis invité à poser. Ça peut être une décision pour prier plus, une décision pour pardonner, une décision pour reprendre ma vie en main davantage, ça peut être une décision, enfin ça peut être évidemment mille choses très 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 différentes. Mais je pense que quand nous commençons un petit peu à faire un peu ce changement, je dirais, d'attitude, et donc de devenir un peu cette personne qui se met en mouvement dans une attitude de confiance, dans une attitude d'espérance, oui, dans la prière, eh bien, peu à peu elle découvre qu'effectivement, dans cette épreuve, il y a des choses positives qu'elle peut vivre. Oui. Elle peut poser des actes, et je dirais que quelque part, ça la libère aussi, parce qu'on n'est plus simplement dans une position de victime qui subit un malheur, mais on devient peu à peu de nouveau cette personne qui peut-être a souffert, a été secouée, mais qui pose des actes positifs. Il y a aussi comme une réconciliation avec soi qui peut jaillir de ça, vous voyez. Et donc, une autre manière un peu de se poser la question, donc la question, vous voyez, qu'il est belle de mettre en lumière cette question, quelles sont les attitudes de foi, quelles sont les attitudes d'espérance, quelles sont les décisions dans le domaine de l'amour que je suis invité à poser par cette épreuve. On peut le dire un peu autrement, on peut dire aussi quel est le bien qu'aujourd'hui je peux pratiquer, quel est le bien dont je suis responsable. Peut-être que je souffre, peut-être qu'il y a des choses qui vont mal autour de moi, mais il y a quand même un bien que je peux accomplir, il y a des choses bonnes que je peux faire. Oui. Et puis il vaut mieux se centrer sur le bien que je peux faire que se centrer sur le mal que j'ai subi. Ça nous fait plus avancer. Il y a toujours un bien qui est possible. Oui, je peux prier, je peux pardonner, je peux aimer, je peux faire telle chose, je peux rendre tel service, je peux offrir aussi, voyez. Il y a toutes ces dimensions aussi de l'offrande parfois qui peut venir et qui peut être une aide. Parce que quand quelqu'un commence aussi à vivre son temps difficile, pas simplement comme un truc qu'il subit, mais comme quelque chose qu'il offre, oui, ça peut aussi changer pas mal la perspective dans laquelle on se trouve. Alors, oui, donc c'est pas une recette, c'est un peu des points de repère, mais je pense que si quelqu'un fait le chemin que j'ai essayé de décrire, j'espère que j'y suis arrivé à peu près, eh bien, peu à peu, il y a une lumière qui va venir, une lumière, une paix, et puis la personne va comprendre que même si elle a perdu des choses, même si elle a laissé des plumes, eh bien, elle a un avenir, vous voyez. La vie reprend un sens, vous voyez. Oui, la confiance est là, l'amour est là, l'espérance est là, la vie est là. Oui, il y a comme une manière de reprendre vie, voyez. Et puis de comprendre bien dans quel chemin. Alors, on ne comprend pas toujours évidemment à long terme, parce que là encore c'est jour après jour, mais comprendre qu'est-ce que Dieu me demande aujourd'hui, voyez. C'est ça un peu le résultat de ce travail que j'ai évoqué, c'est qu'on finit par comprendre, bon, qu'est-ce que Dieu me demande aujourd'hui. Parfois, par exemple, quelqu'un peut être paumé parce que sa communauté va mal, puis sent que qu'est-ce que Dieu me demande ? Eh bien, de faire confiance au Seigneur, de lui abandonner tout ça, puis de faire ce qui est de mon côté à moi est possible pour que les choses aillent mieux. Non pas attendre que ce soit les autres qui bougent, mais comment moi je peux bouger ? Oui, l'Église vit un temps difficile, peut-être que, alors ça me décourage, ça m'inquiète, mais peut-être que le Seigneur me fera comprendre que ce qui est important de réaliser, c'est pas comment résoudre les problèmes de l'Église, mais qu'est-ce que toi tu peux faire pour que l'Église soit plus sainte et plus pure, oui. Bon, je crois que je vais un petit peu m'arrêter là, parce que j'ai dit l'essentiel, puis on va offrir un petit peu un temps de questions, de partage, si des choses n'ont pas été claires. Mais moi, il me semble, vous voyez, que quand une personne un petit peu essaye de faire ce chemin que j'ai décrit, eh bien, le fruit de ce résultat, alors qui ne vient pas tout de suite, mais qui vient un peu à peu, c'est une certaine lumière. Alors, non pas qui explique tout, non pas qui résout tout, mais une certaine lumière où je sais bien comment, moi, je dois avancer. Qu'est-ce que Dieu me demande ? Je ne sais pas ce qu'il demande aux autres, et c'est leur problème. Et je ne m'occupe pas des autres, sinon pour les aimer, pour leur pardonner, pour prier pour eux, mais je m'occupe de répondre à l'appel que Dieu m'adresse à moi. Et c'est comme ça que je ferai le bien, que les choses vont avancer, que peu à peu, eh bien, je dirais que de ce temps d'épreuve que j'ai pu connaître, eh bien, des choses positives vont pouvoir naître, ce qui est toujours possible. C'est le grand message d'espérance de l'Écriture. Dieu peut tirer un bien de tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même s'il y a le mal autour de nous, parfois on se focalise trop sur le mal. Alors c'est bien qu'il faut le voir, il faut le résoudre, mais il ne faut pas se laisser fasciner par le mal. Et comme je disais tout à l'heure, c'est plus important de voir quel est le bien que moi je peux pratiquer plutôt que de voir le mal que font les autres. Et c'est en pratiquant ce bien qui m'est confié, que personne ne peut faire à ma place, c'est comme ça que peu à peu les choses vont changer, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Et puis surtout, enfin, ce que je voudrais surtout insister, c'est que dans tout ce que j'ai dit, il y a vraiment une perspective de foi. De foi. De croire dans la puissance de Dieu. Oui, Jésus, il a dit, il y a une sainte anglaise qui s'appelle Julienne de Norwich, que j'aime beaucoup, Jésus lui a dit la chose suivante, « Tout finira bien. » All shall be well. Tout finira bien. Je crois que derrière tout ce que je dis là, l'axe profond, c'est cet axe de la foi. Oui. Dieu est là, Dieu est fidèle. Et si on se confie à Dieu, eh bien, il s'occupera de nous. Je ne dis pas que tout sera facile, parfois on sera un peu secoué, mais Dieu est fidèle. Et qu'il saura donc tirer un bien de ce que nous vivons, si on essaye de vivre les choses dans cette lumière de l'Évangile que j'ai essayé un petit peu de transmettre. Voilà, je m'arrête là.
Traverser l'épreuve, vous venez d'entendre une conférence du Père Jacques Philippe enregistrée le 30 juillet 2022 à Lourdes lors du pèlerinage des Béatitudes.